l'abbé, madame, mesdames, messieurs, redoutable honneur que de présenter madame Anne Brassé et en même temps de restituer Jean de Lavarande pour ceux qui l'auraient un peu oublié. Lavarande, écrivain de haute tradition chrétienne, française et provinciale, cette fine alchimie de l'ancienne France. Jean-Balthazar Mallard, baron âgé de Saint-Denis, comte de Lavarande, est né en 1887 au château du Chamblac, dans l'Eure, d'une mère bretonne et d'un père normand, père qu'il perdit presque immédiatement. Sa mère ne peut se faire à sa solitude normande et retourne en Bretagne. Et tout ici commence, car c'est le départ de la nostalgie, une nostalgie intense, puisque Jean de Lavarande dira « j'ai été abreuvé de nostalgie ». Alors là, c'est une anecdote. Il était donc arrivé à Rennes, et il s'y trouvait très seul, uniquement avec des femmes, plus de serviteurs. Mais il dit « je n'étais pas seul, j'avais emporté avec moi une vingtaine d'impérieux portraits, et j'allais me planter devant eux en mangeant mon goûter, en leur disant « je vous ramènerai en Normandie », ce qu'il a fait d'ailleurs. À partir de là, trois personnages vont imprégner l'enfant. Son grand-père maternel, l'amiral Florio de Langle, c'est le côté marine de l'œuvre de Lavarande, ce dernier n'ayant pu être officier de marine pour des raisons de santé. Ensuite, une voisine, Madame de Sainte-Opportune, qui mourra centenaire, qu'il figure dans la nouvelle de Madame de Bamberg. Cette nouvelle, c'est un mélange entre sa tante et Madame de Sainte-Opportune. C'est la nouvelle où on annonce l'arrivée des Prussiens et où Madame de Bamberg fait ranger tous ses serviteurs sur le parvis du château, et même un jardinier pour faire nombre. Et ils sont en grand deuil, tous en livrée noire, et l'obre prussien s'avance et dit « Madame, je m'incline devant votre douleur ». Et elle se retourne en disant « Effectivement, je suis en deuil de la France », et rentre chez elle. Ensuite, Eugène Dubosc, le régisseur, qui avait appris à lire à 70 ans dans la cuisine du Chamblac, et qui lui inculqua le sens du solage, du terroir, de cet esprit de haut manant obro qu'il a toujours cultivé. Enfin, j'oserais, une quatrième personne, puisqu'il la nomme ainsi, la maison, sa maison de Bonneville-Chamblac, Bonneville, la troisième maison que les Lavarandes eurent sous eux. Je laisse ici la parole à Jean de Lavarande. En remontant vers l'Aigle, on rencontre à gauche ma maison, bien modeste, dont je ne parlerai point sans l'assistance de mes amis. Dans une affection injustifiée, nous avons terriblement lutté pour la conserver nôtre. Nous en sortons peut-être épuisés, à moins que le Chamblac secrètement n'ait su, malgré nos déficiences, nous recharger après chaque chute de potentiel. Sa grâce extérieure tient à son heureux blocage, si simple, et à sa couleur, à son matériau, fait d'une brique à peine cuite qui garde un vif éclat orangé, mais sans rien d'autre. Le Chamblac est rose et bleu, avec des ferronneries noires. On ne peut plus rien pour lui. En le voyant, je pense à une dame qui sort de l'Institut de beauté. Plus d'espoir, madame. On a tout, mais tout fait. Le luxe de 10 familles reposait ici. La maison était toute remplie de pures artisaneries. Lavarande, c'est donc bien sûr le chant de sa province, la Normandie, de la Haute-Bretagne, mais pas seulement, car c'est aussi un manuel. Pas une pièce du Chamblac qui n'ait bénéficié de ses talents. On trouve là l'homme du XVIIIe siècle, par comparaison au nôtre, qui a fait une séparation abusive entre le manuel et l'intellectuel. Un homme, enfin, dans ce que le mot est plus fort, de quasi scandaleux aujourd'hui, où les apparences fugitives et tremblantes remplacent le contact vrai et direct. Un monarchiste, vrai, au sens large, la monarchie n'est pas un parti, mais un principe. Tout cela, monsieur l'abbé, mesdames, messieurs, porté très haut avec panache. C'est ce qu'Henri Landemer, dans Spectacle du Monde, a nommé la gloriosité. La gloriosité, autrefois vertu cardinale de l'Occident, compagne la sable de l'honneur. Et nous sommes ce soir quelques-uns à refuser d'en faire un péché. Soyons donc des mainteneurs de bonne race de la tradition catholique, de la France chrétienne multiséculaire. Soyons, comme Jean de Lavarande, des chevaliers. Et portons pour nous reconnaître des gants, puisque dans ce pauvre siècle, c'est tout ce qui reste de l'uniforme de la chevalerie. Voilà pour Lavarande. Madame Anne Brassé, vous nous faites l'honneur de venir jusqu'à nous pour nous parler de la tradition monarchique dans l'œuvre de Lavarande. Soyez-en infiniment remerciés. C'est en 1976 que nous avons découvert Dominique Vapler, le président de notre association. Vous avez demandé de parler à notre soirée parisienne des rapports entre Robert Brasillach et Jean de La Varenne. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de lettres modernes avec pour sujet comparaison, images et métaphores dans un roman de Robert Brasillach. Vous avez enseigné, puis vous avez quitté l'enseignement pour vous diriger vers l'édition et le journalisme. Vous avez collaboré au Figaro Magazine, vous êtes lectrice au Livre de Poche et vous animez tous les jeudis pendant une heure une émission littéraire à Radio Courtoisie. Vous avez publié en 1987 aux éditions Robert Laffont une biographie de Robert Brasillach, livre couronné par le prix des intellectuels indépendants et par le prix Robert Brasillach. Ensuite, vous nous avez donné une préface pour Les Masques ou Aimer, un amour de nez de cuir, texte inédit de La Varenne. Préface où vous faites ressortir l'opinion du maître de Chamblac sur les femmes, qui savent mieux aimer, attendre et souffrir en parfaite communion, car elles savent voir au-delà des masques que nous portons tous, par orgueil ou par crainte, par pudeur ou par lâcheté. Enfin, vous avez publié en 1993 une monumentale biographie intitulée La Varenne, pour Dieu, pour le roi, parue à la librairie académique Perrin, où vous nous enchantez et où surtout où vous faites œuvre de mémoire et d'enseignement, car le temps passe et efface, n'est-ce pas ? Cette œuvre est unanimement saluée dans nos milieux. Elle est couronnée par le prix Renaissance, remis par Serge Dallens. Elle reçoit le prix de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Rouen, en même temps que le prix Guillaume le Conquérant, attribué par les conseils généraux de Normandie. Enfin, je conclurai cette présentation en reprenant la phrase d'Henri Coston dans le dernier numéro de Lecture française. Cette biographie d'un homme de droite est l'œuvre d'une femme de droite. C'est trop rare pour que nous n'insistions pas. Voilà.
Juste vous remercier de cette très belle présentation. On apprend toujours des choses sur La Varenne, vue par les autres. Et vous la compléter en disant que je, étant une femme de droite, je travaillais dans au quotidien présent, qui est... je le sais, par bien des égards, quelquefois différents de vous, mais à la fois très proches aussi. Alors, je vous parle aujourd'hui de La Varenne, le dernier féodal, ce qui est une autre manière de dire La Varenne, le monarchiste. C'est seulement une expression plus ancienne, puisque la féodalité est le système antérieur, premier système, le premier stade, si l'on peut dire, de la monarchie en France. Cette idée n'est pas de moi, je l'ai trouvée en travaillant l'œuvre de Brasillach, l'œuvre de critique littéraire de Brasillach, qui a beaucoup fait pour faire connaître l'œuvre de La Varenne et qui a intitulé plusieurs articles « La Varenne, le dernier féodal ». Je n'ai donc pas fait œuvre de nouvelles et me suis glissée dans ses pas. Et plus j'avance et plus je crois que Brasillach avait raison. La féodalité est un ordre politique et social qui est fondé sur l'institution du fief. Le fief est une terre, c'est un domaine concédé à un vassal par son suzerain. Et ce mot de fief, ce mot de terre, est le mot clé de l'œuvre lavarandienne. Ce régime féodal consiste aussi dans le morcellement de la souveraineté, laquelle échappe au pouvoir central et se disperse dans les mains d'un certain nombre de grands seigneurs, de grandes provinces, les seigneurs étant possesseurs de fiefs. Et nous verrons combien la Varenne aime que le pouvoir soit décentralisé. Pour vous donner tout de suite une idée de ce texte de Brasillach sur La Varenne. Et voici comment il présentait le Centaure de Dieu, qui est le deuxième livre après Né de cuir. Le Centaure de Dieu est l'histoire extraordinaire d'un jeune homme qui va lutter contre sa famille, son père et sa mère, le marquis et la marquise de la Barre, pour entrer dans les ordres. Cela désespère sa famille puisqu'il n'y a plus de fils portant le nom, il n'y aura plus de descendance, l'aîné étant mort à la guerre. Si l'on cherchait à caractériser d'un épithète ce récit, le centaure de Dieu, on ne pourrait guère trouver qu'un mot, si décrié soit-il aujourd'hui, à droite comme à gauche, le mot de féodal. On oublie trop que la féodalité a été une chose tout à fait magnifique, un rempart contre la barbarie et l'anarchie, et qu'elle a eu en vérité, en son beau temps, bien peu de rapport avec la dictature des banques et la basse, vulgaire et criminelle sottise des parvenus d'aujourd'hui. De la vie de Saint-Louis, écrite par Joinville au centaure de Dieu, la lignée est claire et évidente, et juste dans la bataille qui oppose dans le centaure le devoir divin et personnel au devoir social et divin. Lui aussi, on peut apercevoir les échos du duel immortel qui opposa Saint-Louis et Joinville avant le départ pour la croisade de Tunis. Cette féodalité devenue inutile et parfois dangereuse, il n'est pas vrai que Louis XIV l'ait à jamais écrasée. Jean de La Varenne rappelle l'hostilité des grands contre le roi, qu'ils appelaient le fils Mazarin. Et comment aussi, comme un seul homme, toute la noblesse paysanne se souleva lorsqu'on eut assassiné le roi Louis XVI. Elle se réveilla, cette féodalité, dans les guerres héroïques de la Vendée. Elle dura encore tout au long du XIXe siècle, et la naissance même de l'affreux monde moderne ne l'a pas détruite. On peut le voir ailleurs, dans les manants du roi, où La Varenne a peut-être caché le meilleur de lui-même. J'ai retrouvé aussi le serment des chevaliers, qui est l'ensemble des commandements du code de chevalerie, qui a été édité et retrouvé par un certain monsieur Gautier. Commandement numéro 1, tu croiras à tout ce qu'enseigne l'Église et observeras tous ses commandements. 2, tu protégeras l'Église. 3, tu auras le respect de toutes les faiblesses et t'en constitueras le défenseur. 4, tu aimeras le pays où tu es né. 5, tu ne reculeras pas devant l'ennemi. 6, tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci. 7, tu t'acquitteras exactement de tes devoirs féodaux s'ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu. 8. Tu ne mentiras point et seras fidèle à la parole donnée. 9. Tu seras libéral et feras largesse à tous. 10. Tu seras partout et toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Ce texte, à chaque fois que je le relis, je le trouve d'abord éternel et ensuite éclairant d'une lumière singulière toute cette féodalité est si critiquée, si décriée et si mal expliquée dans nos livres d'histoire aujourd'hui. Puisqu'il est de bon ton de dire que, avant la Révolution, le monde était dans l'obscurité, dans l'égoïsme, et que les uns exploitaient affreusement les autres, alors que ce texte est un très bel exemple et une très belle preuve du contraire. Le système féodal dure 7 siècles, et il y a une littérature qui lui est propre et qui a évolué de l'épopée guerrière au roman de Chrétien de Troyes, au fabliau, au mystère sacré. Et je vais vous montrer comment l'œuvre de La Varenne est riche d'allégories, de sens du sacré et d'amour courtois, exactement comme à l'époque médiévale. Célébration du fief, donc, et de son centre, le château. Il faut que vous sachiez, et M. Bell vous l'a parfaitement bien expliqué, que La Varenne est née dans un très beau château au milieu d'un grand parc. Il en est le roi. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas sorti mon instrument de travail obligatoire. Voilà. Il en est le roi, et quand à 4 ans, il est obligé de partir en ville. Il va se sentir emprisonné, roi exilé et désespéré. Et toute sa vie, il va célébrer le château de façon tout à fait étonnante, de façon tout à fait anachronique, puisque tout de même, il naît en 1887, mais toute sa vie se passe au XXe siècle. Donc il est déjà complètement anachronique, mais il a été élevé par son grand-père, l'amiral Camille Fleuriot de Langue, lui-même homme de la Restauration. Et vous savez qu'à la Restauration, c'est une époque où toutes les idées monarchistes se réveillent avec encore plus d'acuité et d'esprit de rigueur. Tous ces gens qui font la restauration ont vécu la Révolution, en ont souffert. Il y avait avant la Révolution 40 Lavarande. Après la Révolution, il reste deux hommes portant le nom de Lavarande. Et cette célébration donc du système de l'Ancien Régime a été faite par l'amiral, par les gens qui vivaient autour d'eux. Ils se réunissaient le soir et de quoi discutaient-ils? Eh bien, des malversations, des horreurs commises par les révolutionnaires, par les républicains. Chacun disait où il avait caché ses armes, où il recacherait ses armes et sa vaisselle s'il y avait de nouveau une attaque. Il vivait absolument dans le souvenir des atrocités révolutionnaires. Alors, un grand nombre d'œuvres de Lavarande a pour cadre un château, sans pour cela d'ailleurs exclure les gens qui habitent autour et qui dépendent de ce château, parce que vous allez voir, l'image sociale de Lavarande est une image d'union. Aux époques primitives, dit-il, le château n'est qu'une citadelle par quoi l'homme fort tâche de se protéger, lui, les siens, ses approvisionnements, les fruits de ses travaux ou de ses conquêtes. Mais ici, qu'on sente avec précision, le domaine qui comporte possession comporte aussi protection, afin de fructifier ou de seulement maintenir. Le devoir du châtelain naît en même temps que son droit. S'il est plus maître que protecteur, le domaine périclitera et le châtelain sera haï. Il sera alors mauvais roi. L'État lui-même n'est qu'une fédération de châteaux sous la protection d'un château plus puissant, le château royal. Les villes n'ont été que des groupements autour d'un château, des artisans nécessaires au domaine, forgerons, bourreliers, tisserands. Elles réalisent seulement l'extension des communs du château. Quand elles se sépareront de lui, les villes seront des filles révoltées contre leur père, des filles de joie. Je trouve cette expression extrêmement amusante, toujours violente, parce que tout ce qu'écrit Jean de Lavarande est toujours violent et passionné. Mais cette idée du château autour duquel vit tout un village, avec un châtelain responsable d'une population et qui a donc autant de droits, si ce n'est plus, autant de devoirs, pardon, que de droits, est une idée qui est tout à fait exacte, qui est tout à fait rigoureuse et que Lavarande va illustrer dans toute son œuvre. Célébration du château, célébration de la hiérarchie. Le monde n'est pas un ensemble de gens au même niveau et de même capacité. Pour Jean de Lavarande, l'organisation sociale est une organisation pyramidale, avec au sommet de cette pyramide Dieu, le suzerain suprême, puis le roi, le suzerain terrestre, puis les vassaux et les grands seigneurs, et les peuples dépendants de chacun, les villageois dépendants de chacun de ces suzerains. Dieu donc, le suzerain suprême, de qui le roi tient son pouvoir. Dieu qui est extrêmement présent dans l'œuvre de Lavarande, pour diverses raisons. Dieu et l'ange déchu, le diable. L'œuvre de Lavarande est une œuvre magnifique dans la mesure où elle montre des hommes qu'elle célèbre. Lavarande veut édifier. C'est le contraire d'une œuvre romanesque contemporaine où on présentera comme héros ce qu'il y a de plus sale, de plus pernicieux, de plus lâche, de plus malade, mental ou physique. Non, le héros de Lavarandien, c'est le contraire. C'est un homme ou une femme qui est au maximum de ses possibilités physiques, intellectuelles et spirituelles. Mais cela dit, ce n'est pas un saint. Lavarande est tout de même sorti de son château. Il a lu des histoires et il sait que l'homme tombe, si puissant soit-il, que la femme faiblit. Et il présente des héros éminemment humains. Et donc, Sa présentation a toujours deux faces, l'homme qui tend vers la sainteté et l'homme qui tombe. Et Dieu est celui qui essaie, qui peut maîtriser le désordre humain. Le désordre humain qui sont les crimes, qui sont la sexualité, qui sont les vols. Et beaucoup d'œuvres, comme je vous le disais, dans Nez de cuir, puisque après Nez de cuir, que vous pouvez trouver au livre de poche, je vous le signale, comme Les Manants du Roi, dans la collection Le Livre de Poche de chez Hachette. Le Nez de cuir, après avoir fauté une énième fois, puisque c'est l'histoire d'un grand séducteur qui a été blessé sur le champ de bataille, sur les champs de bataille napoléoniens, qui rentre chez lui en Normandie et qui veut, malgré le masque de cuir qu'il porte sur le visage pour cacher sa blessure, qui veut continuer à séduire et qui voudra séduire de plus en plus pour se prouver que malgré sa blessure, il est capable de plaire encore, et qui va devenir le plus affreux des donjons, alors qu'une femme l'aime et veut l'épouser. Nez de cuir, après avoir refusé cet amour, se punira lui-même, tuera son cheval dans une prodigieuse cavalcade et se réfugiera dans un monastère à la trappe. Le centaure de Dieu, qui est le second, dans cette même famille, le second volume de cette même famille de la Barre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et un très bon, un très joli livre qui est plus rare, qui se trouve chez les bouquinistes, qui s'appelle Esculape, et qui présente la vie notamment de Raoul Girois et de son frère Guillaume Lessorier, dans lequel il y a de très très belles définitions du saint et de l'homme qui essaye de marcher vers la sainteté et qui essaye de se dépouiller petit à petit. Aux côtés de Dieu, il y a les saints, et Jean de la Barande a écrit trois belles biographies de saints que je vous conseille. Ce sont les biographies de Saint Vincent, les biographies du curé d'Ars et de Don Bosco. Ce sont des textes qui ne sont pas très longs et qui sont très très enlevés, qui n'ont rien de Saint-Sulpicien, qui ne sont pas des textes hagiographiques et qui sont vraiment très vivants. Et pour la Barande, le saint n'est qu'un être qui obéit, qui se confie et qui aime sans doute plus que tout. Et il dira aussi pourquoi il aime les saints, parce qu'ils dérangent. Ils sont les pionniers de leur temps et ils bousculent les idées dites admises. Et aussi parce qu'ils sont l'aristocratie des chrétiens. C'est amusant de voir cette idée, cette image de Jean de la Barande. Ce sont les meilleurs. C'est ceux dont l'âme est plus belle que chez les autres, que chez les communs des mortels. Il s'occupera de Don Bosco et il dira « J'ai beaucoup de raisons impérieuses et personnelles pour m'occuper de lui. Dire d'abord qu'il est un saint paysan, un rural canonisé et que le fait est rare. Or, j'en ai un peu assez des gens du monde. C'est le patron des laboureurs, des artisans, de leur patience et notre apôtre aussi à nous les fatigués arthritiques qui même au lit ne trouvons le repos et sommes envahis par nos rêves, à nous les imaginatifs esquintés qui imaginons quand même, qui réalisons malgré tout parfois en gémissant mais qui rions si l'on vient nous voir. » Et puis ce curé d'Ars extraordinaire qui est pour la Barande la preuve éclatante de la victoire du saint sur les persécutions révolutionnaires sur les persécutions religieuses à l'époque révolutionnaire, puisque vous savez que le curé d'Ars faisait partie d'une petite communauté qui se cachait dans les granges pour dire la messe, pour écouter la messe, et qu'il a refusé de partir, d'être enrôlé dans les armées révolutionnaires. Et par ailleurs, le curé d'Ars se flagelle pour mater le vieil Adam, et pourtant il fut le roi d'Ars, dit la Barande, il fut un dictateur de la foi. Et Saint Vincent, enfin, le fondateur de l'ordre des filles de la charité, lui qui, et la Barande qui a chanté dans toute son œuvre la beauté des femmes normandes, rappelle que Saint-Vincent a limité cette beauté en disant, Saint-Vincent disait aux filles de la charité, et en tout cas à celles qu'il voulait engager dans son ordre, « Mesdemoiselles, dans 20 ans, rien ne restera de votre beauté si chère, ni de votre joie, et vous ferez pitié. La grâce d'une femme est celle d'un sépulcre blanchi quand elle est sans vertu, d'un sépulcre. » Célébration de l'Église, bien sûr, c'est une Église hiérarchique, c'est celle de Saint Pie X, avec un pape, avec des cardinaux, des évêques et des curés, des fidèles, et non selon le droit canon de Vatican II et de son égalité contemporaine. Il faut dire que les lois anticléricales du début du siècle, que vous connaissez bien, la loi de séparation de l'Église et de l'État, la loi des inventaires, et puis l'expulsion des congrégations, qui trouvera son apothéose dans la condamnation de l'Action française, va marquer le jeune Jean de la Varande, qui a 17-18 ans et qui est à Rennes, au Collège Saint-Vincent. Et tout le monde à Rennes va prendre fait et cause pour soutenir les congrégations, pour empêcher les républicains d'aller fouiner dans les sacristies et mettre leurs pattes sur les objets sacrés. Il va y avoir une levée d'armes qui sera immortalisée dans un joli roman de la Varande qui s'appelle « Le nom de Monsieur Rudel ». Monsieur Rudel est un homme qui, avec ses 4 fils, va faire le siège, va pénétrer dans l'église de son village, s'y enfermer avec un tonneau de vin et du lard pour tenir, et avec ses fusils et ses fils, il empêchera tout officier républicain de pénétrer dans l'église. Et c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui a eu lieu dans la famille du mari de sa sœur. Et puis il y a eu toutes ces manifestations, le frère de Jean de la Varande, Robert de la Varande, s'est couché, a failli être renversé par les chevaux de la garde républicaine. Enfin, c'était les manifestations de l'époque, mais des manifestations où les défenseurs de l'Église étaient extrêmement nombreux. C'est toutes ces lois scandalisent Jean de la Varande, parce qu'elles appauvrissent l'Église, qui ne pourra plus remplir ses fonctions d'hospitalisation et d'instruction. Et toutes ces réflexions résonnent absolument étonnamment aujourd'hui, quand on voit qu'il n'y a plus d'infirmières, il n'y a pas assez d'infirmières dans les hôpitaux, que les enseignants sont ce qu'ils sont. Cette volonté d'expulser l'Église, d'expulser les ordres enseignants et les ordres hospitaliers apparaît comme la plus grande sottise des gouvernants de l'époque, puisqu'ils l'ont fait la preuve, 60 ans après, de leur incapacité de régler le problème. Et on sent que ce rôle de l'Église, non seulement de célébrer les sacrements, mais aussi donc d'instruire et de soigner, est admiré de la Varande. La condamnation de l'Action française fut un choc. Jean de la Varande lisait l'Action française, et vous retrouverez toutes les échos de cette condamnation et de cette exclusion atroce qui a marqué l'époque, et qui ressemble étrangement, là encore, à certaines exclusions que l'on connaît aujourd'hui, avec des prêtres qui refusent les sacrements d'un certain rite à certaines personnes. J'ai été frappée de l'actualité de cette œuvre. Ce qui s'est passé à la condamnation de l'Action française se repasse 50 ans après dans des conditions absolument similaires. Plus discrètement, bien sûr, plus sans publicité, mais se passe absolument rigoureusement pareil. Et c'est l'écho de ces condamnations et de cette souffrance, vous le trouverez dans Les Manants du Roi, qui est un livre de poche, dont je le disais, dans des nouvelles très belles qui s'appellent La Procession, Le Hobereau, L'Enterrement civil. où l'on voit des familles ne plus pouvoir s'approcher de la table eucharistique, ne pas pouvoir recevoir les sacrements, ne pas pouvoir être enterrés, ne devoir se contenter que de l'enterrement civil. Célébration de l'Église, célébration bien sûr des prêtres, et Navarrande a fait de très beaux portraits de prêtres dans son œuvre, de cette vie héroïque, de leur solitude, de la puissance des tentations, et qu'ils vivent dans la misère, le choquet, et qu'on les traîne dans la boue, comme fait Maupassant, le scandalisait. Et voilà ce qu'il écrit à propos de Maupassant et de certaines de ses nouvelles qui sont en effet atroces pour le clergé. Il faut être bien épais pour ne pas plaindre dans tout prêtre l'homme privé de famille et dans tout prêtre rural issu du peuple le broiement de cette mission surnaturelle qui le surclasse dans un destin sacrificiel d'une telle hauteur. Quel qu'il soit devenu ce prêtre, il demeure l'enfant qui s'est trouvé à 20 ans, digne d'envisager sans crainte la vie qu'il choisit, d'envisager avec ivresse pour la plupart. On devrait accorder à un prêtre qui tombe l'hommage que nul ne refuse à un grand poète qui a succombé au traquenard de la vie. Pour terminer cette célébration, je voudrais parler des pèlerinages. Jean de Lavarande met en scène beaucoup de pèlerinages dans son œuvre, des pèlerinages à Sainte-Anne d'Auray, comme le docteur Costard qui va demander la guérison, qui part à pied vers la Bretagne pour demander la guérison de son fils. Pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel pour les pèlerins d'Argentan et pèlerinage vers Jérusalem pour Guillaume de Girois. Les pèlerins marchent pour demander une grâce, une guérison ou le rachat de leurs fautes. Saint-Michel qui guérissait les crimes de sang, Saint-Jacques qui rachète les attentats de l'esprit et de l'amour. Si on pouvait aller en pèlerinage pour acheter les attentats de l'esprit... Beaucoup de bêtises seraient peut-être évitées. Et il a cette très jolie définition du pèlerinage. Un mouvement de fourmis, lente, mais toujours en route. Les hommes sont partout, minuscules et presque immobiles, mais indifférents aux aises. Ils finissaient par avaler les distances. Songez à la simplification du voyage et l'hospitalisation comme subsistance et couchage. Se souvenir qu'ils étaient spécialement vigoureux. Tous les faibles avaient péri. Célébration aussi des monastères et des moines, de la vie monastique, du renoncement. Et ça, je crois que le plus beau texte, c'est justement le texte de Guillaume Girois. Et pour terminer ce premier chapitre sur la célébration de Dieu et de la religion, voilà ce qu'il écrivait dans un de ses textes, justement dans Esculape, qui est un texte qu'il a écrit assez tôt. Pour moi, Dieu est le plus noble et le plus tendre de mes compagnons. Je dois avouer que dans mes détresses, dans une longue vie d'inquiétude et d'insatisfaction, j'ai trouvé en lui un secours, une audition ineffable qui m'ont permis non d'éviter le désespoir, mais de le contenir. Jamais en ayant recours à lui, je ne me suis sentie comme presque toujours ici-bas, un fâcheux, un ennuyeux. Jamais près de lui, je n'ai eu la sensation d'être un raseur. J'ai cru percevoir qu'il me recevait avec affabilité, qu'il m'écoutait, les yeux sur moi avec intérêt, même avec bonté. Mais cela date de ma trentaine. Depuis que ne l'adorant plus, je ne fais que l'aimer. Tenant son pouvoir de Dieu, donc, le roi, et ses vassaux, les ducs et les seigneurs, tous unis par le serment de fidélité, l'hommage lige qui est le ciment de cette structure. Et c'est très important, cet hommage lige, qui là encore est complètement occulté dans le livre d'histoire, parce que c'est le ciment de cette société. Guillaume le Conquérant, au sujet duquel Lavarande va écrire un grand livre, qui s'appelle Guillaume le Bâtard Conquérant, eh bien, Guillaume le Conquérant est le duc de sa province. Il va pacifier sa province, qui est dans un état assez pitoyable. Nous sommes en 1100. les héritiers des Vikings sont assez turbulents et ils passent leur temps, comme en Corse, à se dévorer les uns les autres, à se tuer tous les héritiers. Guillaume le Conquérant arrive et avec sa force, son intelligence, il va arriver à pacifier tout ce monde et faire de sa province ce que la Varande appellera la Toscane française, c'est-à-dire une ville où il va laisser 37 hôpitaux, une dizaine de monastères, des cathédrales, un pays tout à fait splendide. Eh bien, au lieu de rester indépendant, au lieu de rester seul dans sa Normandie, le duc de Normandie va se soumettre au roi. Et quand le roi sera en difficulté, au lieu de le pousser, au lieu d'aller avec ses ennemis contre le roi, et le roi est son ennemi, eh bien non, Guillaume va soutenir le roi de France. Et quand on connaît les problèmes d'unité dans un pays, ce serment lige est quelque chose d'extrêmement important. Par contre, le roi en lui-même, on ne le voit pas tellement dans l'œuvre de la Varande. On voit, il dira d'ailleurs dans son autoportrait que je vous lirai tout à l'heure, « J'aime la monarchie, mais pas beaucoup les monarques. » D'abord, il est évident qu'il n'a pas... À son époque, le problème des descendants se pose. Il n'a pas vraiment choisi son héritier. Et cela reste loin. Mais c'est la structure qui importe pour lui. Et ce roi, donc, pour l'aider, des ducs. Guillaume le Conquérant, je vous l'ai dit, qui est le champion du système féodal, qui a une force extraordinaire. Il a cette très belle image pour le décrire. Guillaume, cet athlète érigé sur la porte noire de l'an 1000, regardant vers l'éblouissant avenir et tout baigné d'aurore, qui retient à plein point ses deux léopards. Je vous disais, une dizaine d'abbayes, non, c'est 32 abbayes. 32 abbayes, c'est la civilisation de l'Angleterre, puisque vous savez que Guillaume le Conquérant a débarqué en Angleterre, a battu les Anglais à la bataille de Hastings en 1066, et que ce règne, parce qu'on peut parler d'un règne, a étendu sur l'Angleterre et sur toute la France une immense influence intellectuelle et catholique. Les abbayes du Bec et Loing attiraient des milliers d'hommes et de femmes, des milliers de professeurs, de médecins, et avec ces figures célèbres que sont Anselme et Lanfranc. Célébration des ducs qui sont les courroies de commandement du roi. On verra beaucoup de ducs dans cette œuvre, des ducs avec lesquels Jean de la Varande entretiendra des relations plus ou moins difficiles, parce que Jean de la Varande est un homme de petite noblesse, mais on peut même dire de toute petite noblesse, et qu'à côté de lui vivait la famille de Breuil, le duc de Breuil, et que ces gens-là étaient des gens tout à fait étonnants. Vous savez que c'était les héritiers d'une grande famille, dont il écrira d'ailleurs la vie, mais il considère que de toutes les façons la famille de Breuil ne vaut plus rien 10 ans après la Révolution, puisque ces de Breuil ont pactisé avec la République, et en effet ils deviendront des grands ministres de la République. Alors pour lui, les de Breuil ne sont plus rien, mais il reste tout de même son chef d'armes. Et à cette idée-là s'ajoute une autre, c'est que les deux de Breuil qui habitent juste à côté de lui sont des mathématiciens absolument passionnés, de grands savants, et donc un peu distraits. Et ils n'ont pas tellement conscience de la présence de ce voisin à côté, qui est étrange, qui lui écrit des livres, des romans, que donc les deux savants ne prennent pas tellement au sérieux. C'est quand même un homme d'imagination, alors que ce sont des hommes de science. Et donc, le courant ne passe pas entre les deux châteaux. Et Jean de La Varenne a tout de même l'épiderme extrêmement chatouilleux. Et négligence, qui n'est pas du mépris, mais qui est plutôt de la distraction de savants, des breuils à son égard, Jean de La Varenne n'appréciera pas du tout. Alors, tous ces portraits de duc seront à entacher à cause de cette situation personnelle. À quelques exceptions près, puisqu'on a un très beau duc de Loigny dans L'homme aux gants de toile, qui est un très très joli roman, je vous conseille aussi. C'est l'histoire du duc de Choiseul-Praslin, qui était un homme dangereux, puisque après avoir fait 8 enfants à sa femme, il la poignarde pour pouvoir s'en aller avec la jeune gouvernante de ses enfants. Mais ça ne se passe pas aussi facilement, il est emprisonné. Mais grâce à des amitiés, il peut s'échapper et vivre dans la forêt près de Valognes. Et bien sûr, Jean de La Varenne, c'est une légende normande, on ne sait pas ce qui s'est véritablement passé, s'il est mort en prison ou s'il a pu s'échapper, mais Jean de La Varenne aime cette légende, et il va donner à ce duc de Choiseul-Praslin l'occasion de se racheter dans la forêt. Il va vivre seul, caché dans les bois, mais bien sûr, dans la forêt normande, on n'est jamais longtemps seul, et plusieurs personnes vont s'apercevoir de sa présence, dont une très belle jeune fille, Jacqueline, qui va tomber amoureux de l'homme au gant de toile. Et donc il y a un très beau portrait, le quatrième personnage du roman, qui est le duc de Loigny, et qui meurt, qui sait être malade, qui va célébrer son dernier anniversaire avec les seuls amis qui lui restent, puisqu'il est célibataire, c'est-à-dire dans son écurie, au milieu de ses chevaux. Bien sûr, il y a le duc de Saint-Simon. Et La Varenne écrira une très belle biographie du duc de Saint-Simon. Et c'est amusant de connaître l'identification de Jean de La Varenne à Saint-Simon. Là, vous savez que Saint-Simon était lui aussi décalé par rapport à son siècle. Il était un homme de Louis XIII. Son père a servi sous Louis XIII et lui-même était un homme de Louis XIII. Arrive Louis XIV avec des méthodes un petit peu modernes, avec des promotions d'hommes nouveaux, ce qui évidemment fait de l'ombre aux hommes anciens, ce que ne supporte absolument pas Saint-Simon, qui, fou de rage, va se retirer sur ses terres et se mettre à écrire pour exulter sa rancœur. Et ce qui est amusant, c'est que le style de Saint-Simon est tout à fait à l'origine du style lavarandien. C'est un style à l'emporte-pièce, et Jean de La Varenne nous a laissé des textes comme quoi il a relu plusieurs fois l'œuvre de Saint-Simon. C'est une écriture à l'emporte-pièce. Jean de La Varenne dit que c'est une écriture crachée. Et en effet, Saint-Simon crache ses colères, comme ses admirations, comme ses mépris, et tout cela donne, des textes extrêmement vivants. Et puis il y a un livre qui s'appelle « Monsieur le Duc », qui est un livre assez triste à mon goût, qui raconte l'histoire du duc et de la duchesse d'Alt, qui cherchent à marier leur fils et à lui faire un bon mariage, un riche mariage, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et c'est une assez triste digression sur l'inutilité de ces grandes familles que l'État n'utilise pas, dont l'État ne fait pas ses grands officiers, et que c'est une histoire qui se termine très mal, mais c'est un livre tout à fait intéressant. Bien sûr, la célébration de la chevalerie de Malte, dont M. Bell vous parlait, avec de prodigieuses figures comme le commandeur de Galard, les ordres ont quelque chose de fascinant pour Jean de La Varenne, et on comprend bien pourquoi, et tout simplement parce qu'ils appliquent ces 10 commandements de la chevalerie que j'ai lus dans l'introduction. Et puis, célébration des manants. Célébration des manants du roi, ceux qui luttent pour lui, ceux qui lui donnent leur fortune, qui lui donnent leur puissance de travail, et cela à tous les niveaux de l'échelle sociale. Qu'ils soient paysans, qu'ils soient marins, qu'ils soient seigneurs, Jean de La Varenne ne fait aucune différence, qu'ils soient bourgeois, tous sont unis dans une même vénération pour le roi, et dans le même espoir, celui de son retour. Et cela donne tous ces personnages extraordinaires, les Labarre, les Danville, les Galard, le marquis de Gouville, monsieur Douville. Et cela donne une célébration des gentilshommes qui portent le nom même, Jean de La Varenne a même donné le titre d'un livre, avec cette définition: tous les nobles sont gentilshommes, mais tous ne sont pas des gentilshommes. Et c'est pour montrer que, et cela montre tout à fait que Jean de La Varenne n'est pas un homme de caricature, ce n'est pas un homme de système clos avec des visions simplistes. Non, encore une fois, tous les nobles sont gentilshommes, mais tous ne sont pas des gentilshommes. Et il célèbre, et le mot manant, pour lui, ce n'est pas à la manière des nobliaux qui vivaient à Versailles et qui avaient perdu tout contact avec la terre en disant, on a cette expression, le mot manant est devenu péjoratif, donc manant. Non, le mot manant vient du verbe latin maneo, je reste. Et La Varenne, qui sentait déjà combien le monde était en train de bouger, combien ce monde était mouvant vers ce qu'il n'augurait de rien de bon, Jean de La Varenne apprécie ceux qui restent sur leur terre, qui restent fidèles à leurs opinions, qui demeurent. Et Cadoudal, ce paysan qui se destinait à la prêtrise, mais qui, à cause des émeutes révolutionnaires, va être obligé de tuer un homme qui était en train de violenter la fille de l'aubergiste qui l'accueillait. Et bien sûr, pour lui, il ne peut plus espérer être prêtre puisqu'il a tué. Et donc il va rentrer dans le combat, rentrer dans la lutte, et il va, par sa force, par son charisme sur les autres hommes, devenir le grand chef chouan que l'on sait. Célébration enfin de la femme. Exactement comme dans les romans d'amour courtois que vous connaissez, dont vous avez souvenance, après l'épopée, il y a des chansons de gestes où alors là, il n'y a pas de femme, ou alors très loin dans les donjons, on voit à peine leurs nains, viennent les romans d'amour courtois. Et là, cette chevalerie militaire s'humanise et se soumet au pouvoir de la femme. Et les histoires romanesques naissent, des conflits, des contrepoints, et de l'harmonie entre l'aventure et l'amour. Et cet amour courtois est un amour aux règles précises, qui sont des règles d'honneur, de vertu, de virginité. Et Jean de La Varenne va tout à fait célébrer ses vertus. Encore une fois, ça ne sera pas de façon ignorante, ça ne sera pas de façon simplificatrice, mais ça sera de très belle façon. Judith de Rieux, dans Nécuir, offrira deux fois son amour à Roger de Tingebray, et deux fois Nécuir refusera. Et la première, il dira qu'il refuse parce qu'il a, dit-il, perdu son âme. Je ne suis qu'un corps animal, qu'un corps, et en perdant mon âme, j'ai perdu l'âme des autres. Cette idée de l'âme est une idée médiévale, bien évidemment, et nous la chercherions en vain dans les romans contemporains, et même dans les romans du 18e et du 19e siècle. Seule la littérature classique a célébré l'âme. cette idée de l'âme et cette idée du péché, de l'homme tourmenté par la chair, est une idée qui revient sans cesse dans l'œuvre de Jean de La Varenne, qui, il faut bien le dire, n'était pas indemne de toute tentation. C'était un solide normand, il aimait les femmes et je crois qu'il en a fait un grand usage. Il a été marié peu de temps parce que sa femme est morte. Il est resté marié seulement 20 ans. Et c'était un homme qui aimait les femmes. Et quand Judith et Ned Cuir commettent un sacrilège, je vous l'ai dit, Ned Cuir se punit. L'homme au gant de toile cherche le rachat, et Esculape est une célébration aussi de la chasteté qui impose ses règles en des temps de virilité absolument débridée. Il y a des portraits de femmes fortes, des portraits magnifiques, et vous avez les portraits de Charlotte Corday, les portraits d'Anne d'Autriche, et puis toutes ces femmes qui attendent leurs hommes. La Varenne dira, il n'y a pas de grande famille sans femmes au centre. Il dira aussi, et j'aime beaucoup cette expression, il se plaint dans son journal intime, et il dira, l'amour a perdu son aspect cultuel, sa haute religion. L'amour doit être une religion. Il célèbre la femme qui tient le fief, comme ces femmes au Moyen-Âge, qui restent seules lorsque leurs maris partent aux croisades. Et il y a un très beau personnage qui s'appelle Armance, qui est elle une bourgeoise qui épouse Jean d'Anville. Et c'est une très belle trilogie qui s'appelle Cœur pensif, Cavalier seul et La partisane. Et c'est l'histoire d'une femme qui tient la maison de son mari et les fermes pendant que son mari est exilé en Allemagne. Voilà, je crois que le Moyen-Âge était un temps de prière et de... C'était une époque fervente, c'était un temps de travail, un temps de prière et un temps de sentiments ardents. La Varenne a beaucoup prié, beaucoup travaillé, beaucoup aimé. Je crois que c'est vraiment un homme du Moyen-Âge. La sensibilité violente est la moitié du génie, disait-elle. Et je crois qu'à l'aune de cette définition, on peut dire que Jean de La Varenne est un grand génie du Moyen-Âge. Je vais terminer en vous lisant cet autoportrait que Jean de La Varenne a rédigé. J'aimerais assez la finesse et je chéris surtout le caractère. J'ai beaucoup aimé les femmes. Je crois en Dieu, au diable. J'aime la monarchie, mais pas beaucoup les monarques. Je crois à la poésie. J'aime les mots plus que tout, les grands, les gros, les petits. J'ai aimé la vie. Je tâche à commencer d'aimer la mort. Être généreux, puissant pour venir en aide, décidé pour agir vite et bien, indifférent un peu pour ne point garder rancune, courageux pour mourir, et faire croire aux gens que c'est facile de mourir. Savoir mourir, le plus aristocratique des savoirs. Eh bien, je vous en ai donné un petit aperçu. Pour moi, Dieu est le plus tendre des compagnons. Il a laissé tout de même... c'est très difficile de parler de la vie spirituelle d'un homme, mais il a laissé tout de même beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes écrits relatant ses combats, relatant ses espoirs et relatant ses... Je peux vous lire encore une d'autres textes. Dieu est vraiment le compagnon. Vous savez que La Varenne était un homme souvent désespéré, souvent seul, et et Dieu était proche de lui. Je me sens emportée par cette ferveur immédiate que l'idée de m'approcher du Sauveur, l'espoir d'y entraîner les autres suscite en moi. Là aussi, une sorte de souci des âmes à convaincre. Et il ne s'intéresse pas, vous voyez, toute son œuvre est une œuvre pour édifier, mais c'est aussi une œuvre pour entraîner les âmes vers Dieu. C'est une mission. C'est vous donner l'idée tout de même de son sens du devoir et de ce qu'il veut faire de sa vie. Voilà. Et puis, des tas de textes aussi. Ce signe de croix qui semble vouer l'humain entier au Christ, sur le front qui pense, sur le cœur qui a aimé, sur les épaules qui luttèrent. Il y a vos proches, il y a les prochaines guerres, il y a le Proche-Orient et la prochaine dévaluation, mais il n'y a plus de prochain. Et l'orgueil dans chaque homme maintient un petit Lucifer. Gardez par devant vous le sentiment de cette autre présence réelle. Donc toujours cette idée du diable qui est là. Et puis cette très, très belle définition que je vais vous dire aussi. La présence de l'hostie, c'est cela qui devrait nous donner la foi qui soulève les montagnes. Et pratiquer toujours, quoi qu'il arrive, pratiquer. Les sacrements ne sont pas une récompense, mais un moyen, pratiquer, en lettres majuscules. Voilà. Oui, il a écrit des poèmes, des petits poèmes, il ne se prenait pas au sérieux, mais il a écrit un certain nombre de poèmes dont j'ai cité dans mon livre. Je ne sais pas si il en a écrit que très peu, il a laissé une quinzaine de poèmes. Je ne crois pas que c'était sa forme d'expression favorite et il est plus à l'aise dans un grand flux romanesque, dans une grande phrase. Je ne sais pas s'il aurait pu contenir sa nature dans une forme très restreinte. Mais il a écrit des poèmes, qui sont assez amusants et certains très tristes. Je pourrais vous lire, d'habitude j'emporte mon livre, qui est au fond. Merci beaucoup. Voilà. C'est le dernier, c'est celui que je préfère, c'est celui qu'il a écrit en guise de testament. Cœur agile et charmant, au cœur inépuisable, cœur offert tout au bout des doigts aventuriers, ô cher cœur de mon cœur, faut-il que vous riez quand éperdu d'orgueil, j'en appelle à la fable. À la fable, ô grand Dieu, ô héros que le sable du mortel sablier n'aura jamais dévié, aux immortels enfin, portant à leur signer cette éternelle ardeur d'une âme insatiable. Je ne sais plus ce soir, durant combien d'années, ignorant les déclins et les saisons fanées, j'ai vécu, j'ai pleuré, j'ai créé, j'ai souri. Et sans rien qui commence et sans rien qui s'achève, chaque jour fut pour moi sans défaut ni décrit. J'avais dédié mon âme à l'autel de son rêve. Il y a tout l'avarante dans cette phrase. J'avais dédié mon âme à l'autel de son rêve. Amis très chers et très prenants. Il les a beaucoup perdus. Le premier de ses amis, son ami de cœur à 18 ans, un jeune homme absolument remarquable qui s'appelait Geoffroy comte de Nétumière, qui était vraiment un jeune homme tout à fait extraordinaire, très lettré, très, très chrétien, plein d'énergie, est mort dans un accident de chasse. Après, vous savez qu'il y a eu la guerre de 14, il y a perdu aussi deux de ses meilleurs amis. La vie lui en a redonné d'autres, plus âgés, qui l'ont beaucoup aidé, qui l'ont sorti de sa solitude, parce que tout de même, essayer d'aller à Bernay, je peux vous dire que c'est vraiment au fin fond, il n'y a pas de TGV, c'est vraiment au fin fond de la Normandie. Et il n'est pas facile d'y arriver. Et Jean de La Varenne n'a jamais quitté ce château, sauf pour faire des conférences, mais il n'a jamais vécu véritablement à Paris. Donc il fallait aller voir. Il écrivait beaucoup. Donc il a eu des amis qui l'ont aidé, notamment Fabulet. Il y en a un autre qui est très, très amusant, c'est... très amusant. Il y a René Benjamin, il y a René Fauchois, et puis il y a un individu très, très amusant qui est Claude Farrère, qui est ce grand romancier que vous connaissez, cet officier de marine qui a écrit de très jolis romans, avec lequel La Varenne a échangé une correspondance extrêmement amusante. Et ils se sont fâchés à la fin parce que Claude Farrère a beaucoup poussé Jean de La Varenne à se présenter à l'Académie française. Et puis au moment de voter pour lui, il s'est trouvé malade et il ne s'est pas fait porter à l'Académie. Alors Jean de La Varenne s'est fâché à mort contre cet ami de longues années. Mais c'était un homme très exigeant en amitié et il lui fallait admirer ses amis, il lui fallait des hommes aussi passionnés que lui, en fait. Et c'est pour ça que René Benjamin, Fauchois, Maximilien Vox aussi, qui était éditeur, écrivain, furent des grands amis de Jean de La Varenne. Et il a puisé certainement dans ses amitiés beaucoup de soulagement à ses désespoirs, parce qu'à chaque fois qu'on lit ses lettres, on voit bien combien ses amis lui remontent le moral. Un écrivain qui écrit un livre est en état de grande faiblesse. Il ne sait pas si son... bien sûr, il est très orgueilleux, bien sûr, il a fait de son mieux pour faire le meilleur des romans possible, mais une fois que le livre est publié, il est extrêmement sensible à la critique, il est extrêmement sensible à la réception de ce roman. Donc ses amis sont là pour lui envoyer des lettres dithyrambiques et pour le rassurer. Mais lui-même aussi était très fidèle correspondant. La correspondance de La Varenne est très loin d'avoir été dépouillée dans son entier. Il reste, je fais appel aux jeunes volontés, il reste un travail considérable à faire sur La Varenne. Cette biographie n'est que la première. Ah ben, pour une raison très simple, monsieur, c'est qu'il est complètement exclu de l'enseignement. Il n'y a pas un texte de Jean de La Varenne dans l'enseignement. Ses livres ne sont que dans les bibliothèques de ce que La Varenne appelait les manants du roi. Moi, j'ai trouvé La Varenne dans la bibliothèque de mon grand-père, qui était Camelot. Ces textes sont passés à mes parents et mes parents me les ont transmis. Et toute l'histoire des Lavarandiens est comme ça. Des Lavarandiens d'aujourd'hui, c'est une histoire de famille. Alors, quelquefois, on fait des adeptes par le pouvoir de la parole et de la conviction. J'ai œuvré pour que les deux livres, Nez de cuir et Les manants du roi, sont au livre de poche. Donc, si vous voulez, pour 30 francs, vous pouvez faire connaître largement, à chaque dîner où vous êtes invité, vous pouvez faire connaître La Varenne. C'est moins cher qu'un bouquet de fleurs. Et c'est de beaucoup plus longue durée. Le premier drame, c'est donc il est exclu de l'enseignement. Deuxième drame, c'est qu'il faut tout de même savoir très bien lire pour lire à La Varenne. La moitié du vocabulaire est tout à fait oubliée. Il faut avoir le goût de la langue, si vous voulez. Si vous avez des jeunes formés à l'écriture journalistique, à qui on a dit d'ailleurs que l'écriture journalistique était le nec plus ultra, c'est-à-dire un sujet, un verbe et un complément, l'enfant est complètement perdu, l'adolescent est complètement perdu devant cette écriture pleine de ponctuation, d'emportement, d'adjectifs et de mots curieux. Nous sommes plus du tout à une époque où le style est célébré. Le style n'est plus célébré, il a été cassé, il a été méprisé, exactement comme la gloriété, comme l'esthétique. La norme maintenant, c'est le journal écrit ou parlé. Enfin, là, c'est encore pire. Donc, si vous voulez, ça demande des esprits très indépendants et très littéraires, qui comprennent que finalement, le style journalistique, c'est tout de même pas la panacée. Et puis, bien sûr, il y a tout de même aussi l'effroyable propagande républicaine, il faut bien le dire. Vous ne pouvez pas parler de l'Ancien Régime sans que tout de suite la propagande tombe. C'était les ténèbres et maintenant c'est la lumière. Enfin, c'est un peu moins. Absolument. Absolument. Et Henri Pourra non plus n'est pas du tout. Et pour les mêmes raisons, n'est pas du tout célébré. Mais c'est un ensemble de choses, si vous voulez, qui fait que donc l'enseignement, la difficulté du style et le fond du message tout de même, la Varande est extrêmement gênant. Les enseignants républicains ne sont pas sûrs d'eux, c'est ça qui est amusant. Ils seraient sûrs d'eux, non, ils seraient sûrs d'eux, ils ne feraient pas cette propagande. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne fait rien sans passion. Et en tout cas, personnellement, c'est ce qui me fait bouger. Mais et je crois que, si vous voulez, il est normal, et il serait grand temps qu'à une passion républicaine, que je conçois très bien, chacun a ses passions, il puisse... Ça, c'est dans mes moments de grande tolérance, il y ait une passion autre. Et je crois que ce qu'il faut seulement, c'est que cette passion s'exprime et avec une grande tranquillité et une grande sérénité. Il ne faut pas, mais il faut seulement s'armer intellectuellement et montrer cette société telle que la dépeint Jean de la Varande, c'est-à-dire l'anti-marxisme. La haine des classes est une idée stupide pour Jean de la Varande, une idée stupide. Le Front populaire, avec le bec de gaz au sommet duquel tous les bourgeois seront pendus, qui est une idée réelle, on l'a oublié, mais c'est une idée réelle, le Front populaire, etc., est une idée archi-sotte pour Jean de la Varande, puisque, tout du moins dans la campagne, les uns ne peuvent vivre sans les autres. Il faut qu'il y ait de même que le suzerain ne peut vivre sans ses vassaux, de même, à la campagne, on a besoin les uns des autres. La haine de classe est une idée folle. D'ailleurs, on en voit les résultats, on ne peut plus rien faire, la situation est bloquée, le corps social est bloqué. Et ça, c'est une idée très forte que nous pouvons avoir. De même que celle du suzerain, le père. C'est une idée très très forte qui, évidemment, diffère quelque peu de l'image présidentielle actuelle, qui fait ses petits plans d'épargne logement. Je crois qu'il y a des tas d'armes que l'on peut tirer et qui sont très convaincantes, parce que la Varande, par cette forme romanesque, vous comprenez, charme les esprits. Il présente... on ne peut pas commencer un roman de la Varande sans l'achever, sans le... Il mène des esprits extrêmement éloignés. J'ai fait l'essai sur des esprits très très éloignés de nous, y compris sur des jeunes femmes américaines dont c'est vraiment pas du tout la tradition. Eh bien, ces personnages sont éminemment prenants, ils sont très humains et ils sont éternels. On ne peut absolument pas dire il y a des personnages qui sont démodés, il y a des romans qui sont démodés. Bon, je ne les citerai pas parce qu'en fait, je ne les lis pas beaucoup. Mais je crois que les personnages de la Varande sont absolument de toute éternité et on peut les prendre au Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime et aujourd'hui, parce qu'en fait rien n'a changé depuis le début du siècle, on est exactement dans la même situation. avec le combat laïque, religieux, république et parti politique. Rien n'a changé. Donc les personnages de la Varande sont de toute éternité et ils sont une force. Donc ce sont des... Je crois que ce sont des bons vecteurs, comme dirait... Non, je dirais plutôt des bons ambassadeurs de l'idée monarchiste. Mais il y a beaucoup de travail pour contrer cet enseignement qui est... Je étais tout à fait sidérée. Dans le livre d'histoire de Magnard, à l'explication de la féodalité, il n'y a même pas le mot du serment Lige, de l'hommage Lige et de l'adoubement. Enfin, l'adoubement, c'était tout de même la plus belle cérémonie du monde fédéral, complètement occultée. Et bien évidemment, la notion tout de suite après que les seigneurs se gobergeaient et que les pauvres vivaient dans la boue et crevaient de faim. Alors qu'il y a eu des périodes où les paysans crevaient de faim, là où le seigneur était particulièrement mal appris, maladroit et parti à ripailler ailleurs. Mais il y a eu des régions de France où quand le temps était clément, la vie était belle et harmonieuse. Sinon, il n'y aurait pas eu les enluminures. Je crois que l'art, les enluminures sont un très bel argument aussi. Les enluminures que l'on voit sur tous les livres d'heures, sur Chantilly à Chantilly, c'est quand même des peintures de la réalité, ce ne sont pas des rêves d'artistes. Donc si cela, ça existait, c'est que la propagande est fausse. Je crois que l'art est une façon très forte de convaincre finalement les esprits. Absolument, et c'est d'ailleurs ce qui a entraîné ce qui était fait sous Louis XVI, qui commençait à être fait sous Louis XVI, qui installait un système de circulation des denrées. Oui, mais il est vrai que la circulation des denrées nécessitait la création, la construction de canaux et le développement du système des carrosses, enfin des transports de chevaux, et que tout ça. Des nouvelles, oui. Parce que les nouvelles sont des bijoux et que c'est très rapide, c'est très facile à lire, les nouvelles. Les manants du roi sont des nouvelles.
Très... Exceller dans la nouvelle.
Les nouvelles, Pays d'Ouche, Les gentilshommes, Heureux les humbles. Et puis, alors ça, ce sont des livres que vous trouvez chez les brocanteurs, hein, chez les bouquinistes, pour 3 francs 6 sous. Et puis, 9, vous trouvez actuellement 4 livres. Vous trouvez Nez de cuir et Les manants au livre de poche. Et vous trouvez Saint-Simon, la biographie de Saint-Simon. Vous trouvez aussi Tourville, la biographie de Tourville, qui est magnifique. Et L'homme aux gants de toile, aux éditions Christian de Bartilla, qui est un éditeur à la retraite qui a fondé sa propre maison d'édition, mais qui est en fait un ancien éditeur qui a dirigé les éditions Stock pendant 20 ans. Donc les libraires connaissent Christian de Bartilla. Mais il faut insister auprès du libraire. Alors là, il faut y aller avec beaucoup de patience et beaucoup de détermination pour lui dire de bien vouloir faire venir en même temps que 30 Cyril Collard, 5 La Varande. Oui. C'est-à-dire que même il y a 10 ans, il existait encore, puisque moi je suis rentrée au livre de poche et il était encore en stock. Mais vous savez, ces grosses maisons ne font apparaître les livres que quand il y en a 3000. En dessous, le petit chiffre ne justifie pas le déplacement et la logistique. Donc le système est idiot parce que la lecture est un acte individuel et c'est pas un acte de mode et de collectivité. Mais il faut insister. Mais les libraires sont en train de changer leur... parce qu'ils ont bien compris que vendre des livres en pile, ça ne marchait pas, puisqu'ils ont tous beaucoup de difficultés. Les éditeurs ont énormément de difficultés, et ils se rendent compte maintenant que la lecture, bien, c'est l'activité de gens relativement indépendants, qui n'écoutent aucune mode, très passionnés, et qui, quand ils veulent lire quelque chose, ne liront pas autre chose. Donc, c'est pas la peine de leur proposer Cyril Collard quand ils veulent la marrante. Ça, je crois qu'ils se rendent très bien compte. Donc, la librairie est en train de redevenir ce qu'elle était jadis, c'est-à-dire un endroit où on pouvait commander un livre et le libraire faisait sa démarche. Ah, complètement, oui, ça, l'éditeur n'en revient pas. L'éditeur n'en revient pas. Enfin, c'est un succès modeste, hein, parce qu'il faut quand même raison garder et il faut savoir que c'est pas le sac de billes de Joffaut ni les souliers de Zerre. Mais c'est tout de même un joli tirage pour une biographie d'écrivain, parce que déjà ça, c'est un exercice difficile, la biographie d'écrivain. Mais ça l'étonne parce qu'il pensait que la Varande était définitivement mort et enterré. Moi, ça ne m'étonne pas parce que je savais qu'à chaque fois que je parlais de la Varande, les yeux brillaient. Les gens étaient capables de me réciter une litanie de romans de la Varande, bien plus que je ne savais moi-même, des citations entières de textes. Je me disais, là, il y a un phénomène et je suis sûre que je ne travaille pas dans le désert. Et j'ai eu cette impression, et je crois aussi que ça, c'est une nouvelle donnée de cette fin de siècle, c'est qu'il y a des groupes qui sont absolument incompressibles et qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas influencer. Ce sont des groupes qui résistent au milieu ambiant. Et je crois que cette histoire lavarandienne le montre bien. Il y a, Dieu merci, des îlots qui vont peut-être devenir des Grandes Bretagnes, mais je crois que c'est... Puis c'est tellement une réponse à des problèmes contemporains que... ça ne peut que finalement se développer, je crois. Mais il y a des tas d'écrivains comme ça qui pourraient être remis en valeur, ça c'est sûr. Et puis c'est bon que cela marche, parce que ça va donner le courage aux éditeurs de prendre d'autres risques qui n'en sont pas. Moi, il a fallu que je me batte tout de même. Lafond n'a pas voulu de ce livre. Mon premier livre sur Brasillac qui était édité chez Lafond, et 5 ans après, je lui propose donc ce deuxième sujet, et le père et le fils n'en ont pas voulu, en disant non, c'est pas possible. Et j'ai dû trouver un homme plus lettré, qui est François-Xavier de Vivy, le patron des éditions Perrin, qui est un homme de certainement de grande culture, et pour se dire bon, elle a l'air tout de même bien sûre de son fait. On va lui faire confiance. Non, aucun éditeur ne peut faire plaisir à personne. Les éditeurs ne sont pas des hommes de plaisir, ce sont des hommes d'argent.